7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin est une journaliste qui a participé au livre collectif sur Michel Rocard, publié chez Flammarion.
Bonjour Anne Sinclair.
Bonjour Léa Salamé.
Et vous êtes nombreux à participer à cet ouvrage sous la direction de Jules Fournier, Rocard vu par Tony Blair, Alain Juppé, François Hollande, Alain Touraine, Edgar Morin, Laura Adler, bien d'autres. Et vous-même donc, Anne Sinclair, vous écrivez « Au moment de sa mort, beaucoup de gens se sont retrouvés orphelins. Ce fut mon cas, je l'aimais et je l'admirais. Il a compté pour moi et ma génération. » Pourquoi a-t-il compté pour vous et votre génération plus que d'autres? Pourquoi l'aimiez-vous au fond plus que d'autres? Qu'avait-il de plus?
J'ai été formée à l'intérêt pour la chose publique, la res publica, par Pierre Mendès France. Et je pense que Rocard était tout à fait dans la ligne de Mendès. Il était ce type d'homme extrêmement particulier qui non seulement a une action politique, mais a su créer un mouvement de pensée, un courant intellectuel, avec une dimension politique, syndicale, avec la volonté de convaincre plus que de vaincre, bien souvent. Et je pense que c'est quelqu'un qui avait une absence totale de vanité. Ce qui est extrêmement rare dans le monde politique.
Il était le seul, non, quasiment, de tous ceux que vous avez interviewé qui n'avait pas de vanité.
Oui, en tout cas, c'était évident chez lui. Je me souviens très bien que, alors qu'il avait été Premier ministre, qu'il aurait pu être Président de la République, sait-on jamais, en tout cas candidat, il était tout heureux d'avoir été nommé ambassadeur des pôles d'Arctique et d'Antarctique, et il était heureux de servir, heureux d'une mission. Et c'est quelqu'un qui avait l'ambition de la chose publique.
La dernière phrase qu'il vous a dite la dernière fois que vous l'avez vue, quelques semaines avant sa mort, c'est
« Il faut se la faire, la France ouais. ». Ce que j'ai trouvé magnifique. Magnifique, ce qui était ça. C'était vraiment, à la fois, il avait tout donné à la France, qui ne lui a pas forcément tout donné en retour. Alain Bergougnoux et Jean-François Merle, dans un livre qui s'appelle « Le Rocardisme »,
qui sort aussi en ce moment,
disent assez justement que c'est un destin inabouti. Il y a de ça chez Rocard.
Mais alors pourquoi? Pourquoi la deuxième gauche a toujours perdu en France? Pourquoi Rocard a perdu face à Mitterrand alors que c'est lui qui était en phase avec l'opinion et lui qui était en phase d'une certaine manière avec le sens de l'histoire?
Bien parce que justement, je pense que dans ce livre auquel nous avons participé, Olivier Duhamel dit assez justement qu'il lui a manqué sans doute l'audace de Macron ou la ruse de Mitterrand, ou l'inverse d'ailleurs. Et c'est probablement ça qui a fait que Rocard s'est toujours trouvé sur la brèche.
Qu'il n'était sans doute pas taillé pour le pouvoir, contrairement à Mitterrand, stratège, c'est vos mots, stratège sans scrupules quand il s'agissait de la politique.
C'est vrai, je crois que Rocard a sans doute été peut-être, mais c'est peut-être ça qui était attachant chez lui, c'était le côté peut-être toujours dans la réflexion, toujours dans la discussion, toujours dans l'analyse, plus que forcément dans l'action. Alors si, il a été Premier ministre, mais il a été maltraité, c'est vrai, maltraité par Mitterrand.
Et par la France, d'une certaine manière.
Oui, Edgar Morin dit qu'il a été victime des politiciens. D'une certaine manière, oui.
Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont vu dans Macron l'héritier du rocardisme et qui se sentent floués aujourd'hui? Au fond, le grand malentendu pour beaucoup de rocardiens, c'est d'avoir pensé qu'Emmanuel Macron était celui qui porterait la deuxième gauche au pouvoir, là où Rocard, Delors, Strauss-Kahn avaient échoué.
Je crois que... Peut-être avait-on l'impression que Macron moderniserait la gauche et atomiserait la droite. Et il se trouve qu'il a atomisé la gauche et que, en tout cas dans la première partie du quinquennat, c'est ce qu'on nous dit, il modernise plutôt des idées libérales. Je crois qu'il y a... Il n'y a pas de malentendu. Macron a été élu non pas sur un thème de justice, mais sur un thème d'efficacité. Et donc je crois qu'il n'a pas incarné ce que Rocard avait toujours incarné, c'est-à-dire lutter contre les inégalités toujours croissantes. Il a incarné l'idée de rationaliser, de moderniser l'économie française.
Non, pourtant, le Macron de la campagne était quand même plus horizontal, plus contractuel, plus décentralisateur, alors que le Macron Macron président est peut-être plus mitterrandien, lui, peut-être plus vertical, jacobin. Vous ne pensez pas qu'il y a eu un malentendu quand même entre... Vous ne voyez pas deux hommes entre la campagne et le président ?
Si, je crois que ce n'est pas tout à fait la même orientation. Je pense que, notamment, par exemple, sur l'immigration, je pense que Macron, qui n'avait pas de mots assez doux et assez élogieux pour Angela Merkel, et la façon dont elle avait accueilli... pour de bonnes et de mauvaises raisons, 1 million d'immigrés en Allemagne, il lui décernait beaucoup d'éloges, et c'est pas exactement la politique qu'on a, malgré ce que Thomas Legrand rappelait tout à l'heure, et Mamoudou Gassama.
Est-ce que vous voyez du Mitterrand dans Macron ?
Je vois un stratège, et Mitterrand était stratège. Les choses ne sont pas forcément comparables. Mitterrand a bataillé pendant combien d'années, de 58, en tout cas, et même avant, puisqu'il était ministre, mais en tout cas de 58 à 81, pour essayer de ramener la gauche au pouvoir. Macron a une trajectoire fulgurante. C'est d'ailleurs une des choses qui l'oppose à Rocard. Rocard a passé 60 ans de sa vie à essayer justement de faire avancer des idées. Macron a eu à la fois une intuition et une faculté de bouleverser le jeu extraordinaire. Donc, comme Mitterrand, il a réussi de manière stratégique. Après, je crois que les choses sont très différentes. Mitterrand était, en tout cas, de la première gauche. Et, en tout cas, la politique du premier septennat était de la première gauche.
La mort de Rocard coïncide avec la crise de la social-démocratie. Cette social-démocratie qui avait dominé l'Europe pendant des décennies et qui aujourd'hui est rejetée à peu près partout en Europe, en tout cas en Occident. Est-ce que vous pensez que la social-démocratie est définitivement morte ?
Oh, définitivement morte, ça veut pas dire grand chose. Les cycles en histoire sont toujours sinusoïdaux, donc ça à long terme, on n'en sait rien. Ce qui est aujourd'hui le cas, évidemment, c'est que à la fois en Italie, en Allemagne, en France, en Espagne, la social-démocratie se porte mal. Alors pourquoi ? Parce que sans doute, elle a déçu à essayer de corriger les inégalités. Parce que elle a laissé s'opposer une mondialisation qui s'imposait à tout le monde avec des précarités extrêmement fortes. On a parlé, vous en avez parlé ici un matin du sondage, de l'enquête d'Oxfam qui montre à quel point les entreprises françaises du CAC 40 ont profité des dernières années pour à la fois accroître les bénéfices des actionnaires.
Vous allez nous énerver, Dominique Seux. Il n'est pas d'accord avec l'enquête d'Oxfam.
Pas du tout, je le vois acquiescer.
c'est pour vos beaux yeux, parce qu'il n'est pas d'accord avec l'enquête d'Oxfam.
On s'égare.
Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui, c'est indéniable, partout une montée des inégalités. Je pense que il y a sûrement une voie qui n'a pas été trouvée par la social-démocratie, qui s'est peut-être attelée d'abord à la redistribution, dont on a vu les limites, mais qui n'a pas su trouver le moyen terme entre la mondialisation et la régulation d'une économie mondialisée.
Dernière question, Anne Sinclair, vous vous sentez bien dans ce nouveau monde ?
Oh, moi, je suis bien partout.
vous sentez nouveau monde ?
Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, je pense que je suis de mon temps. Avec tout ce que ça veut dire.
Anne Sinclair était notre invitée, merci. Je rappelle le livre Michel Rocard par Laura Adler, Tony Blair, François Hollande, Alain Juppé, Edgar Morin, Manuel Valls, chez Flammarion. Merci.
Merci Léa, à tout à l'heure.